Nous allons lire la parole de Dieu dans les psaumes 15. Pendant ce moment, nous serons en train de nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes 15, du premier jusqu'au cinquième vers. Je vais conduire la lecture, psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. 5. Il n'exige point l'intérêt de son argent et il n'accepte point des dons contre l'innocent. C'est lui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais, c'est la parole du Seigneur. Nous allons inviter le serviteur de Dieu à s'approcher et il va prier pour la parole de Dieu.
Seigneur, nous te disons merci. Ta parole est source de vie. Ta parole est la vérité par laquelle tu nous sanctifies. Nous prions que cette parole, tu l'adresses à mon frère, tu l'adresses à ma sœur, tu l'adresses à nous tous et à nous toutes, pour que nous puissions vivre autant que toi tu veux, élevé au standard où toi tu veux nous porter. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, dès la première parole jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons ajouter à ce texte deux autres. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Et Philippiens chapitre 3, le verset 4 à 6. Genèse chapitre 17. Il avait 99 ans, quand le Seigneur lui apparut et lui dit, « C'est moi le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois comment? Sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre moi et toi. Je te ferai proliférer jusqu'à l'extrême. » Philippiens chapitre 3, verset 4. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi, pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Parole du Seigneur. Le thème de notre message de ce matin, c'est « Marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. C'est un ordre qui a été donné à Abraham, cet homme que le Seigneur a appelé des divinités qu'il était en train d'adorer dans un contexte où il n'avait aucune connaissance de Yahweh. Yahweh se révèle à lui et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Nous allons essayer de comprendre ce que signifie le terme intégrité pour introduire. Mais le premier point de notre message, c'est l'importance du combat aujourd'hui pour l'intégrité. Le deuxième point de notre message, à l'école de l'intégrité, quelles sont les exigences? Et à la fin, nous allons essayer de comprendre quels sont les acquis, quelles sont les récompenses d'une vie intègre. Étymologiquement, le terme intégrité vient du latin integere. Integere, qui signifie simplement entier, un état complet. C'est donc l'état d'une chose qui se veut intacte. L'état d'une personne, un garçon ou une fille, un homme ou une femme, qui se veut intacte. C'est-à-dire honnête, dont la probité est absolue. Avoir l'intégrité, c'est donc avoir de l'honnêteté, avoir du respect, être fidèle à tous égards, à tout point de vue. Au niveau de la parole qu'on prononce, mais aussi de la conduite qu'on est en train d'adopter. Il est donc question ici de prendre des options justes et correctes. Même quand personne ne te voit, être conscient, comme il était le cas pour Abraham, que je marche devant l'Éternel. Alléluia. C'est donc l'homme tout entier, de la tête jusqu'aux ongles, qui est intègre. En anglais d'ailleurs, on dit, en anglais, c'est verset 17, verset 1 du chapitre 17, on utilise le terme blameless, c'est-à-dire sans aucun blâme, sans aucune reproche. C'est-à-dire être conforme au caractère de Dieu. Vivre de la manière à plaire le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis content d'avoir tel comme mon enfant. Je suis content d'avoir tel comme mon serviteur. Malheureusement, on constate que l'intégrité disparaît. Des hommes et des femmes intègres disparaissent. Dans le psaume 12, verset 2, il le dit assez clairement, il dit, au secours, Seigneur, il n'y a plus d'homme intègre, d'homme pieux ou fidèle. Toute la loyauté a disparu parmi les hommes. Et voilà ce qui justifie notre premier point, l'importance du combat pour l'intégrité aujourd'hui. Est-ce que nous sommes intègres? Jeunes gens, jeunes filles, quand on vous envoie au marché pour acheter quelque chose, est-ce que vous faites un rapport correct? C'est un problème de conscience. Est-ce que tu fais un rapport correct? Un de mes enfants, quand il était encore enfant, un jour, j'avais constaté qu'il était en train de faire un faux rapport. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, « Mutu anakuliaka mukazi yake. » Il était encore enfant, si je lui rappelle ça, je crois qu'il ne peut plus se souvenir. En fait, il y a beaucoup de gens qui mangent dans leur travail. Si ça se dit en français, est-ce que nous les maris, nous sommes intègres? Nos femmes connaissent-elles notre salaire? Y a-t-il des comptes dont ta femme n'est pas informée? Les mamans, quand vous faites le rapport de la ration, est-ce que vous êtes correctes à tout bout de champ? Nous-mêmes, quand nous disons que nous avons amené la dîme au Seigneur, est-ce que c'est la dîme ou c'est une partie de la dîme? Même le fait de bouffer et le salaire et la dîme, ça signifie qu'on n'est pas, intègre. On n'a même pas besoin de battre du tambour pour dire aux gens « amenez la dîme ». C'est clair, c'est net, c'est biblique. C'est même incontournable. Chacun doit prendre conscience que si je veux être intègre, je dois amener la dîme. Est-ce que c'est fait? Si tous les membres de l'Église, dans toute la CBK, étaient intègres, même seulement pour la dîme, il n'y aurait pas de pasteurs pauvres. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y en aurait pas du tout. Il n'y aurait même pas d'église pauvre. Quand tu vas en mission et que tu dois justifier les frais, comment ça se passe? Le psaume 20, verset 6 dit, « Il y a beaucoup d'hommes dont on vante la bonté, mais l'homme sûr, l'homme fidèle, ou alors l'homme intègre, qui les trouvera? » Bien-aimé, l'intégrité est comptée parmi les denrées rares aujourd'hui. C'est l'un des besoins les plus criants de notre société, mais aussi de l'Église. Chaque homme, chaque femme, dans n'importe quel secteur de la vie, on a besoin des hommes intègres. C'est-à-dire des personnes qui s'abstiennent d'un tout petit mensonge et des mensonges flagrants. Des personnes qui sont exemptes d'hypocrisie. C'est-à-dire quand il dit une chose, ce n'est pas le contraire de ce que son cœur pense. Normalement, il devrait y avoir un accord entre ce dont nous sommes convaincus, nos convictions, même les convictions de foi, avec la manière dont nous vivons cette foi. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes intègres. Est-ce que ce dont nous sommes convaincus se révèle à travers les paroles que nous prononçons, même la manière dont nous vivons? L'ancien président de la RDC, il y a quelques années, avait dit qu'il cherchait 15 personnes qui sont intègres. Et j'ai appris qu'effectivement, il a cherché, il a envoyé dans toutes les provinces, il a mené une enquête dans toutes les provinces qu'on lui trouve des personnes intègres. Malheureusement, il n'a jamais publié la liste. Et quand bien même on présenterait ces 15 personnes intègres, est-ce qu'ils sont faciles à gérer? Parce que les personnes intègres souvent sont des personnes marginales que la société ne tolère pas. Notre vision, c'est de faire de Goma Ouest une paroisse dont les membres sont rayonnants en parole et en quoi? Et en acte. C'est-à-dire des hommes et des femmes intègres. Ceux dont les convictions profondes qui découlent de la parole que nous prêchons du haut de la chair, de la parole que nous prêchons pendant les semaines, ça influe sur leur manière de vivre de manière à ce qu'ils soient intègres. Un pasteur allemand, un certain Helmut, qui s'était maintenu dans l'intégrité pendant les périodes du nazisme, avait dit ce qui suit. S'abstenir d'un tout petit mensonge peut être une profession de foi la plus convaincante que toute une philosophie chrétienne débattue longuement et avec intensité. En fait, il démontre ici que l'intégrité, il n'y a pas ce à quoi on peut la comparer. Parce que lorsqu'on s'abstient, on dit « je ne mentirai jamais ». Je ne coucherai pas avec un homme avant le mariage. Je ne coucherai pas avec une fille avant le mariage. Je ne volerai pas. Quand tu dis ça, c'est-à-dire tu t'engages dans une vie d'intégrité, ça c'est plus convaincant que toute une grande philosophie débattue avec beaucoup d'énergie. Un pasteur était monté dans un bus parmi tant d'autres clients, voyageurs bien sûr, et on lui avait remis, en plus de l'argent qu'on devait lui remettre, on lui avait remis plus que ce qu'on devait lui remettre, quelques pièces de monnaie. Et comme toujours, il est parti, il ne s'en est pas aperçu, il est arrivé chez lui, il a compté, il a constaté effectivement qu'on lui a donné plus que ce qu'il devait. Il a pris un autre bus, il est retourné pour remettre ça. Et celui à qui il a remis lui a dit, en tout cas, je comprends maintenant que tu es pasteur. Ce n'était même pas une somme importante. C'était une toute petite, quelques pièces d'argent. Hier soir, j'ai eu le même problème. On était dans un restaurant en ville et quand on a amené la facture, on a dit c'est ça qu'on doit payer. Et ce qui est marrant, c'est que on a donné tout ce que les autres devaient payer, mais on m'a oublié. Moi, je n'étais pas compté. J'ai fait remarquer que moi, ce que j'ai consommé, ce n'est pas sur cette facture. Il a vérifié et il a dit oui. Il est allé, il a dit oui, exactement, vous avez raison. Alors, on a payé. Quand on était en train de sortir, il m'a posé la question. Papa, vous êtes de quelle religion? J'ai dit non, je suis pasteur. Juste ça. Tu es de quelle religion? Quel rapport y a-t-il entre la facture et quoi? Et la religion. Il y a un rapport. Il y a un rapport. Je n'ai même pas compris pourquoi c'était moi qui étais visé. C'était donc un test. Donc, des tests, nous en aurons toujours. Alors, à l'école de l'intégrité, quelles exigences? Nos paroles doivent être délibérément vraies. Proverbe 12, verset 22 dit, les lèvres fausses sont en horreur au Seigneur. Il se complaît en ceux qui pratiquent la vérité. L'ancien président américain George Washington, dans son enfance, avait promis qu'il ne mentirait jamais. Dans son enfance, pas dans sa jeunesse. Il a promis à Dieu qu'il ne mentirait jamais. Alors un jour, il a coupé un arbre que son père aimait dans la parcelle. Après l'avoir coupé, le père était terriblement courroucé de constater que son arbre a été coupé. Il a convoqué tous les ouvriers pour qu'ils dénoncent qui a fait ça. Il a commencé à poser la question pour qu'on dénonce vraiment la personne qui a fait ça. Mais lui, le petit George Washington, était parmi ces gens. Il a levé les doigts et m'a dit, papa, c'est moi qui l'ai fait. Son père lui a dit, je ne te sanctionne pas parce que tu as pris le risque. Le risque de dire quoi? De dire la vérité. Nous ne prenons pas souvent le risque. Le risque de dire la vérité. La même personne a été élevée au rang de devenir président de la République. Mais pendant qu'il était en train de se préparer à devenir président de la République, il a fait une prière. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, je veux faire juste un mandat, pas plus. » Mais il avait tellement bien travaillé qu'après ce mandat, on lui a demandé de glisser. La population lui a demandé de glisser, elle a dit non, j'ai promis au Seigneur, je ne ferai qu'un mandat. Combien de nos chefs d'État promettent ce qui ne seront pas en mesure? Combien de responsables promettent ce qui ne seront pas en mesure de faire? Et il n'a pas glissé. Malheureusement, des gens comme ça, le monde n'en a pas besoin, on l'a tué. L'homme intègre tient parole. Ce qu'il promet, il doit le réaliser. C'est ce que je venais de dire. L'homme intègre, c'est un homme et une femme de principe. C'est-à-dire, il est revêtu de courage et de fermeté de défendre ses convictions, même si cela coûte sa vie. Il choisira de le faire à n'importe quel prix, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. C'est le cas de Moïse dont on nous parle dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'à 25. Moïse, il a été pris par la fille de Pharaon, il occupait une position de devenir, d'être prince dans le palais de Pharaon, mais il a choisi de se débarrasser de tous ses privilèges, d'être maltraité avec le peuple de Dieu, que de jouir, la parole de Dieu le dit au verset 24, que de jouir pour un temps du péché. Il a considéré que jouir de ses privilèges était péché. Il a pris le risque de quitter, d'abandonner tout ça, parce qu'il a compris que le temps était arrivé de le faire. Le principe qu'il a choisi, il a choisi d'y opérer. L'intégrité peut me coûter une relation, ça peut me coûter une promotion, ça peut me coûter un emploi, même une réputation. Peut-être même la prison. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph qui a été harcelé sexuellement par la femme de Potiphar. Et cette fois-ci, l'occasion était là, tant rêvée par la femme était arrivée, ils étaient seuls à la maison. Et on lui a dit, voici l'occasion. Il a dit non. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9b. Ça lui a valu la prison. Il est allé en prison parce qu'il a voulu rester intègre avec lui-même. Ses convictions de foi et ce qu'on lui demandait de faire, ça ne s'accordait pas. Il ne pouvait pas du tout. Il a perdu non seulement son job, mais il a aussi, il s'est retrouvé en prison, sans que personne ne puisse venir à son secours. Mais Dieu, finalement, est venu à son secours. Alors, quelles sont les récompenses de l'intégrité? Dernier point. L'une des récompenses de l'intégrité, c'est qu'elle forme le caractère. Et cette intégrité peut déterminer toute la vie de quelqu'un. Toute la vie de quelqu'un. Ça peut déterminer tout ton avenir. Si tu gardes les principes de l'intégrité, si je garde les principes de l'intégrité, ça va déterminer mon avenir et même l'avenir de ma descendance. Très souvent, nous oublions que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ceux qui vont rester après nous. Il y a des personnes qui se souviendront de cette intégrité et tes enfants, tes petits-enfants, ou tes petits-enfants en bénéficieront. Il y a déjà eu beaucoup de cas dans ce sens. Il y a une fille qui avait vu son père en train de mourir. Et le père laissait les dernières paroles en disant, mes enfants, soyez intègres, vivez dans la paix. Que le Seigneur vous aide à garder une conscience pure. La fille disait à son père, mais tu nous laisses quoi? Qu'est-ce que tu nous as laissé? Il n'y a rien que tu nous as laissé. Mais parce que l'intégrité paye. Un jour, elle est allée chercher du travail. Et parmi tant d'autres qui cherchaient ce travail, on s'est rendu compte du nom de cette fille. On lui a posé la question, « Es-tu la fille de telle ?» Elle a dit, « Oui, mon père, mais il est déjà décédé. » La personne qui organisait les tests a dit, « Si je suis ce que je suis ici, c'est grâce à qui ? À ton père. » Qui ne me connaissait pas, mais qui ne faisait sans aucune forme, ne pouvait en aucun cas agir par discrimination. Et ce que je suis devenu, c'est grâce à lui. On lui a donné la clé d'une voiture, on lui a donné un grand bureau, on lui a donné une maison. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que l'intégrité fait quoi? L'intégrité paye. Et procure aussi une conscience pure. Beaucoup de gens sont bloqués, même à servir le Seigneur, parce qu'ils sont chargés des combines dans lesquelles ils ont été entraînés, des situations qu'ils ont accumulées, des gaffes qu'ils ont commises, qui n'ont jamais eu l'occasion de dénoncer même devant un pasteur. Ils sont chargés, n'ont pas de conscience pure. Ne voyez pas les gens passer, les gens sont malheureux. Mais l'intégrité procure une conscience pure. Te donne la joie, une certaine stabilité parce que hauna deni ya mutu. Elle assure aussi une profonde intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu désire la vérité au fond de nos cœurs, mais aussi dans nos vies. Et l'un des grands bénéfices de l'intégrité, c'est qu'elle élève la vie des croyants, mais aussi assure notre éternité dans le Seigneur. Enfin, c'est un outil puissant pour l'évangélisation. Alléluia. C'est un outil puissant pour l'évangélisation. Tu peux ne pas savoir prêcher. Tu peux ne pas être éloquent pour se tenir devant les gens pour parler. Mais ton intégrité à elle seule suffit pour évangéliser beaucoup de gens dans ton organisation, dans ta maison, là où tu travailles, même avec les collègues. L'intégrité est un outil puissant pour l'évangélisation. Alors, si nous voulons être une église missionnaire, et nous tenons à être une église missionnaire, nous avons besoin que chaque membre de cette église s'engage dans une vie d'intégrité. Parce que le Seigneur, ce matin, te dit, marche devant ma face, et sois intègre. Probablement que tu as manqué quelque part la position que tu as, ou tout ce que tu as, tu ne l'as pas gagné honnêtement. Mais tout peut être recommencé. Tout peut être recommencé. On peut toujours commencer à zéro, comme nous avons l'habitude de chanter, et dire au Seigneur, je suis prêt, aide-moi à vivre une vie d'intégrité. Je voudrais te demander de prier pour toi-même, te demander de demander au Seigneur de t'accorder la grâce, de m'accorder la grâce d'être intègre, d'être en mesure de vivre, d'intégrer l'intégrité et que les convictions que j'ai soient des convictions qui influent sur ma manière de vivre ma vie, dans les petites choses et dans les grandes choses. Et si tu as besoin que nous puissions prier ensemble, tu peux te mettre debout, parce que cette intégrité a la promesse de la vie présente, elle a aussi la promesse de la vie à venir, pour toi et pour ta descendance. Même si tu es célibataire, tu auras aussi une descendance. Tu peux te mettre debout et nous allons prier ensemble. Merci, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Je voudrais demander à la chorale d'enchaîner, d'entonner un cœur pendant ce temps. Chacun et chacune prie pour lui-même. Seigneur, nous crions vers toi cet avant-midi et ce matin, Seigneur. Parce que les hommes intègres, les femmes intègres disparaissent dans notre société aujourd'hui. Des hommes pieux sont de plus en plus rares, Seigneur. Des hommes fidèles et des femmes fidèles et irréprochables disparaissent davantage, Seigneur. Mais nous voulons être comptés parmi ceux-là sur lesquels tu as ton regard, que toi seul, Seigneur, tu vois, et vers lesquels tu portes un regard, que désormais, ceux qui se sont mis debout devant toi, même ceux qui ont eu peur de se mettre debout, tous, tu les connais. Nous prions, Seigneur, que tu élèves ta main sur ton Église, afin que tous nous puissions nous battre et nous engager dans ce combat de l'intégrité pour que nous puissions disposer d'une église dont les jeunes, où qu'ils se trouvent, où que tu les appelleras, dont les adultes, les papas et les mamans, les familles ici représentées, chacun réalise qu'il est temps de s'engager comme tu l'as demandé à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te bénirai et tu proliféreras. Tu seras fécond jusqu'à l'extrême. Seigneur, il y a beaucoup de promesses que tu gardes en réserve, mais tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu cherches un garçon, une fille qui va s'engager dans l'intégrité, Seigneur, pour que ces bénédictions en réserve, tu les déverses sur lui, tu les déverses sur elle, tu les déverses sur son parcours, tu les déverses dans les familles. Tu le déverses dans cette église, tu le déverses dans ce pays, dans cette société, Seigneur, et que nous puissions être des témoins vivants du Christ vivant en nous, Christ qui a pris place, qui a pris possession de toute la vie pour qu'il soit véritablement le maître. Agis, Seigneur, et permets que ce message ait des effets qui vont perdurer dans la vie de ses bien-aimés et que Christ, tu sois proclamé le Seigneur. Le Seigneur sur toutes choses, sur la gestion de notre temps, sur la gestion de notre vie sexuelle, sur la gestion de notre jeunesse et notre temps de vieillesse, sur la gestion de nos revenus mensuels, sur la gestion de notre intelligence, sur la gestion de notre force, tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit, Seigneur, que tu règnes. Nous prions ce matin que tu accordes grâce à ces bien-aimés, Seigneur, à toute l'Église, de se jeter, de s'engager résolument dans ce combat à l'intégrité, afin que ton Église soit prospère et que nos familles soient prospères, que nous-mêmes nous soyons prospères, que nos descendants soient prospères. Fais-le, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
On peut acclamer.